Les Actes chapitre 15. Les Actes chapitre 15. Notre texte est des versets 13 à 35. C'est Renaud qui a fait l'étude la semaine passée sur les versets 1 à 12 et qui a placé un bon fondement avec aussi la différence entre les deux alliances, qui était une question de l'Église. C'est une question que vous avez posée avec les sondages. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette réunion à Jérusalem. Aussi, on va essayer de traiter une deuxième question que quelqu'un a posée, c'est la question du sabbat, qui correspond très bien à ce que nous avons vu la semaine passée. Alors, première chose, c'est que j'aimerais juste commencer par corriger les erreurs de l'étude de Renaud la semaine passée. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, j'aimerais que nous revenions à notre situation de la dernière fois. Donc, nous sommes à Jérusalem. Nous nous souvenons que le chapitre a commencé avec un problème à Antioche. Et si vous lisez le texte, vous pouvez voir que c'était un problème probablement d'anciens pharisiens, donc des juifs qui sont arrivés. Et puis ils disent, si les non-juifs veulent avoir le salut, il faut qu'ils soient circoncis. Sinon, ils n'ont pas part à la vie éternelle, ni ils ne vont pas faire partie du peuple de Dieu. Et bien sûr, il y avait un argument qui était très, très fort à ce moment-là. Et donc, on décide d'aller à Jérusalem et là, on va avoir une discussion. En résumé, il faut qu'il y ait une église avec des Juifs et des Grecs qui sont là, qu'il y avait cet enseignement pour la circoncision, pour être sauvé, et puis la discussion dans l'église locale qui a eu lieu, mais ils n'ont pas pu décider entre eux. Ou en tout cas, c'était tellement important dans l'église locale qu'ils vont à Jérusalem, qui est un tout petit peu déconcertant parce que c'est un débat public qui a lieu à Jérusalem. Et ce n'est pas seulement les apôtres qui vont participer à ce débat. Vous vous souvenez? Qui d'autre a participé? Les anciens, oui. Et nous allons voir qu'il y a les anciens, il y a Barnabas aussi qui participe à ce débat. Et nous voyons qu'avec les apôtres. Donc, c'est quand même assez intéressant cette relation qu'il y a entre les églises pour pouvoir résoudre le problème dans les églises locales. Et nous remarquons que le cœur de l'Évangile, c'est au verset 7 de ce chapitre, Dieu a décidé d'inclure les non-juifs dans son règne à travers la conversion de Cornée. Et il faut savoir que les apôtres le savaient avant. Jésus l'avait enseigné. Il avait parlé du royaume pendant 40 jours. Et il leur a dit qu'il fallait attendre à Jérusalem pour le Saint-Esprit, après évangéliser là, la Judée, la Samarie, et puis jusqu'au bout de la terre. Donc ils étaient au courant, mais bien sûr c'est l'Esprit-Saint qui donne ce coup de pouce pour que ça... coup de pied peut-être, plutôt que pour qu'ils aillent un peu plus loin. Donc ça va, vous comprenez quel est le problème? Donc, le problème c'est vraiment, est-ce que les non-juifs doivent être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu, pour avoir la vie éternelle et tout cela? Et il faut savoir que ce sont tous les deux, ce sont des groupes qui aiment les Écritures, ce sont tous les deux des gens qui aiment l'Évangile, mais il y a une pensée derrière tout cela, qui est finalement anti-Dieu. Et je ne sais pas, vous savez quelle est cette pensée qui est anti-Dieu, qui est derrière cela, mais Paul va le décrire, on a lu la semaine passée dans Galates, c'est que les hommes essaient de chercher le salut pour leurs propres moyens, par leur propre obéissance, et ils essaient de mériter ou de gagner cela, plutôt que de faire une confiance entière en ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Donc voilà, c'est notre étude pour cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils arrivent à Jérusalem. Il y a Pierre. Pierre, il dit, Dieu m'a choisi de prêcher d'abord aux païens, à non-juif, et puis c'est son histoire. Puis deuxième argument, c'est Barnabas et Paul qui parlent de leur voyage et que Dieu a approuvé par des signes miraculeux dans tous les endroits que c'était comme cela qu'ils devaient faire. Donc il y a ce que Dieu a fait par le Saint-Esprit, reconnaît, il y a les miracles qui sont faits par Paul et Barnabas, et puis maintenant il y a Jacques qui va se lever. Voilà, donc on va, je crois que ça vaut la peine de lire le texte, parce que je ne sais pas si vous le ferez après, mais on va quand même lire. Est-ce qu'on a des gens qui pourraient lire pour nous? Oui, Angèle, tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît, les versets 13 à 21. Voilà, donc nous avons ce fameux Jacques qui se lève maintenant. Donc notons bien, on a déjà eu Pierre et le travail de l'Esprit-Saint qui était fait. Donc moi j'ai été choisi à faire cela, Dieu a approuvé cela. On a déjà eu Paul et Barnabas qui parlent des miracles qui s'étaient faits dans tous les endroits. Et maintenant nous avons ce fameux Jacques qui se lève et lui... il commence avec cette idée de... Bon, d'abord, qui est Jacques? Bon, on sait qu'il n'est pas. Okay? Il n'est pas le frère de Jean. Oui, parce qu'il a été tué. Donc, c'est pas celui qui a été décapité. Donc, nous sommes sûrs de cela. Mais il semble que quand on le revoit dans Galates chapitre 1, le verset 9, parce qu'il y a des gens qui viennent de chez Jacques, dans les assemblées pour semer la pagaille. Okay? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Donc, ils sortent de chez lui, mais ils ne sont pas vraiment de chez lui. Et ça, on va apprendre. Donc, il semble qu'il est quand même un pur et dur juif qui veut garder la loi, mais il reconnaît que Dieu est à l'œuvre. Qui est ce Jacques? Probablement, c'est le frère de Jésus, qui est mentionné dans Marc chapitre 6. Nous savons que Jésus a apparu à ses frères. On sait cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis, on le revoit aussi dans les Actes chapitre 12, le verset 17, dans un petit texte, juste comme ça, vous pouvez voir, j'ai oublié. Mais il dit, quand Pierre est libéré de la prison, il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. Okay, » Donc, on va voir qu'il est l'un des piliers de l'église de Jérusalem. Alors, selon notre connaissance, Jacques n'est pas un apôtre, pas comme les douze en tout cas. Il n'est pas un missionnaire qui a fait des miracles ailleurs, mais il peut être l'un des anciens de l'église là, mais même si la Bible ne le dit pas. Et bien sûr, probablement c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Malheureusement, quand il commence ce livre, il ne dit pas qu'il est le frère du Seigneur, mais il dit qu'il est esclave, serviteur de Jésus. Donc, vous comprenez ce qu'il sait. Donc, il se lève. Et que fait-il? Bon, comme chaque bon chrétien, il se réfère aux Écritures. Et là, il va se référer à Joël, un passage dans l'Ancien Testament. Il utilise, pour ceux qui s'intéressent, il utilise la traduction grecque, qui quand même est très différent de Masorète que nous avons aujourd'hui. Il y a quand même assez de différence. Mais il parle d'une tente qui avait disparu, une tante de David qui avait disparu pendant des années et des années, et que Dieu l'a rétablie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tante que Dieu a rétablie? Bon, ce que je crois que c'est, la tante de David, c'est vraiment la maison de David. C'est la royauté de David. Que nous savons que depuis la chute d'Israël, de Jérusalem, par les Babyloniens, il n'y avait plus de roi davidique au-dessus du peuple d'Israël. Même s'il y avait Zorobabel qui est revenu avec les captifs pour à Jérusalem pour restaurer les choses, il n'a pas pris la place de roi. Et donc, on attend quelques 500, ouais, presque 600 ans avant qu'un roi soit annoncé. Okay? Car à vous, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Okay? Et donc ça, c'est le roi qui devait... Où est le roi? Viennent les mages. Où est le roi? Et donc, il faut attendre tout ce temps avant que le roi arrive. Et donc, Jésus, c'est celui qui reconstruit la tente de David, c'est-à-dire la maison de David de nouveau prend. Et puis, jusqu'à quand? Est-ce qu'il y aura un descendant de David sur le trône? Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la fin de toute chose. Un jour, il va donner le royaume à son père et toutes choses deviendront comme ça devrait être. Hein. Dieu sera en tout à ce moment-là. Donc voilà, Jacques se lève et commence à lire de Joël, du prophète Joël. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, j'aime verset 19, il dit, donc, pour ne pas créer de difficultés, vous l'avez vu ça, au verset 19, pour ne pas créer de difficultés, ma difficulté à quel niveau? Des divisions, ok. Ouais, pardon? Des relations entre juifs et non-juifs. Il dit pour ne pas créer de difficultés. Alors, j'aimerais bien qu'on comprenne ici que son but, c'est que l'Église reste unie. Okay? Ça, c'est son but, unie en Christ Jésus par l'Évangile qu'ils ont reçu. Et donc, il va donner trois choses qui seront transformées à quatre choses. Okay? Première chose, souillure des idoles. Il y a l'immoralité sexuelle et puis les animaux étouffés. Et puis, il dit cela, en fait, cela parce que Moïse a été enseigné dans les villes, dans le monde entier, depuis des années, depuis des siècles, Moïse a été proclamé. Et ça, c'est à travers les synagogues, probablement. Dans toutes les villes, depuis Babylone, il y a des synagogues où les gens viennent. Il y a des juifs, il y a des non-juifs, donc ce qu'on appelle des craignants de Dieu qui viennent ensemble. Et avec tout cela, ils sont en train d'entendre ces différentes choses. Alors, j'aimerais qu'on lise le verset 22, juste pour voir la suite de ce qui se passe. Luigi, tu l'as, le 22?
Alors il a parlé grand aux apôtres, aux anciens, et à toute l'église de choisir parmi eux, et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères.
Ok, donc... J'aimerais juste souligner le verset, les mots qui sont utilisés. Alors, il parut bon. C'est drôle, hein? Ils disent, il parut bon aux apôtres, aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière de choisir. Okay? Donc, j'aimerais bien que vous voyez cela, parce que là, il dit, il parut bon. Vous avez toujours vos Bibles ouvertes? Le verset 19, ok? Il y a Jacques qui dit, je juge... Okay? Je juge. Okay? Donc, il juge, c'est-à-dire il prend une décision. Et puis, regardez le verset 28. C'est plus, on n'a pas encore lu. Il dit, c'est bon au Saint-Esprit et à nous. Okay? Bon, on dirait, mais on s'en fiche hein, si c'est bon à nous. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Mais notons bien qu'il y a Dieu au travail à travers plusieurs choses. Vous avez vu? Okay? Première chose, il est à l'œuvre à travers l'Esprit Saint et Cornée, que Pierre a dit. Okay? On est d'accord. Deuxième chose, à travers les signes et les miracles faits par Paul et Barnabas. Vous avez vu cela. Okay? Après, à travers les Écritures, donc Jacques va dans Joël et il parle de cela. Et puis, il utilise des choses comme je vous ai dit, pour ne pas créer des difficultés, pour paraître bon aux apôtres, et aux, etc. Je juge et c'est bon au Saint-Esprit et à nous. Donc, on voit que Dieu est à l'œuvre à travers le raisonnement de ces gens, ces Écritures, le travail du Saint-Esprit, et pour que l'Église soit réunie ensemble. Et toutes ces choses fonctionnent pour que, d'abord, l'Évangile ne soit pas déformé, dans le sens qu'on va dire, OK, il faut croire au Christ, il faut se repentir, il faut être baptisé, il faut marcher avec lui, et il faut être circoncis. Là, ils disent, non, ça c'est la limite, on écarte cela. Donc, il ne veut pas que l'Évangile soit déformé de cette manière-là, mais nous sommes dans un logique de discussion, de recherche de la volonté de Dieu. Nous sommes dans une idée de les gens partagent ce qu'ils pensent avec un seul but, c'est rester fidèle à la parole de Dieu pour que l'Église puisse aussi être unie. Okay? Et c'est ça que nous remarquons. Et donc voici, ils vont écrire une lettre, c'est les versets 23 à 29. Donc est-ce que quelqu'un a un texte ouvert, 23 à 29? Oui, vas-y Michel.
Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu.
Voilà, donc nous regardons de ce petit texte et il écrit avec ses envoyés ces différentes choses, et notons bien qu'il y a trois choses qui parlent de nourriture, okay, et l'un qui parle de l'inconduite qui est là, et donc on a ces choses qui sont là, et ils disent, il nous semble bien de simplement vous imposer ces différentes choses. Okay. Qu'est-ce qui vous touche dans le passage? Qu'est-ce qui saute aux yeux?
Qui revient à la loi de Moïse, ils sont en train de parler de sacrifice.
Ok, donc il y a des références alimentaires à la loi de Moïse. Très bien. Bon, il y en a trois, hein. Il y en a trois. Oui, donc ça revient de nouveau, cette idée de... Mm-hmm. Ouais.
Il est apparu bon aussi au Saint-Esprit.
Oui, au Saint-Esprit. Mm-hmm. Ok, donc ça c'est donc on se pose la question. Il y a trois pour le manger, ok, et une pour l'immoralité sexuelle, ok. Et donc on se pose la question, qu'est-ce que cela fait là-dedans? Probablement la raison pour laquelle ça c'est dedans, c'est pour deux choses. C'est que les Juifs suivaient une règle morale qui était au niveau de l'activité sexuelle qui était beaucoup plus stricte que les non-juifs de l'époque. Non seulement dans le sens de respect du mariage et tout, mais aussi au niveau du mariage. Okay? Et il faut savoir, dans Lévitique chapitre 18, il y a toute une liste de gens auxquels on ne peut pas se marier. Okay? C'est-à-dire des membres proches de la famille, okay? Qui étaient là. Et parmi les païens, les non-juifs, on n'avait pas ces mêmes règles. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on est en train de parler de cela pour dire que non seulement c'est l'immoralité sexuelle qu'il faut éviter, mais aussi ces liens matrimoniaux qui sont trop proches et puis que les juifs chrétiens auraient de la peine à accepter ces choses-là. Une autre possibilité, c'est que, comme vous savez bien, que le mot qui est utilisé là, c'est un mot qui peut être aussi traduit par la prostitution. Et nous savons que dans les temples, il y avait cette prostitution qui se passait dans les temples païens à l'époque et qu'on veut faire une rupture directe avec cela. Donc, en tout cas, nous voyons l'importance de cela pour l'unité de l'Église. Mais ce n'est pas nouveau, ok? Ce n'est pas nouveau l'autre. Il y a certaines choses qui me frappent en cela. La première chose, c'est qu'il y a trois choses à voir avec manger. Pourquoi parler de trois choses sur manger? C'est parce que l'Église devait beaucoup manger ensemble. Mais c'est sûr. Hein. Et donc, si on a trois choses pour manger et une chose pour comportement sexuel, il me semble que quand même manger, c'était quand même assez important pour eux. Bon, je ferme là. Deuxième chose, c'est qu'ils ne permettent pas au principe de détruire l'unité de l'Église. Vous avez vu cela? Ils ne permettent pas au principe de détruire l'unité de l'Église. Ce que je veux dire, c'est que Paul, dans chapitre, par exemple, dans 1 Corinthiens 8, il dit que les idoles ne sont rien, qui n'existent pas, et la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est rien. Okay? Mais il dit ici quoi? Ne pas manger de cela. Donc, le principe n'est pas, ah ouais, je suis libre à faire ce que je veux. Le principe, c'est, je veux faire en sorte que l'Église puisse rester ensemble. Ça, c'est la première chose que nous remarquons. Il y a le principe de la nourriture. Dans Marc chapitre 7, le verset 19, Jésus a déclaré que toute nourriture était pure. Okay? Mais on ne va pas aller rester sur les principes. Okay? Jésus a dit, non, on est prêt à même sacrifier parfois sa liberté, le principe de liberté, pour que l'Église reste unie. Par contre, au niveau de la circoncision, pour obliger les gens à se circoncire pour être dans le peuple de Dieu, on n'est pas prêt à faire cela. Et puis, il y a une autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quatre choses dans la liste. Quatre choses. Il me semble que ça, c'est le moment parfait d'écrire un nouveau 10 commandements. Ça serait le moment parfait de clarifier non seulement cela, mais d'autres choses qui peut-être se passaient à gauche, à droite. Mais c'est très minimaliste. Est-ce qu'on peut être très minimaliste? C'est minimaliste. Okay? On choisit quatre choses, et sur ces quatre choses, on va sacrifier pour que l'Église reste unie. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui se fâchent. Là, parce qu'ils disent, ah, mais ça. Non, là, c'est l'essentiel pour rester unis. Okay? Parce que vous mangez ensemble, parce que vous allez être en communion ensemble, voici ce qui est essentiel. Vous comprenez? Donc, la liste est courte. Ce n'est pas ça, et 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 ça, pour finalement être unis. Ah oui, et si on a toutes ces choses-là, on peut être ensemble. Ce n'est pas de tout cela. On revient à que quatre choses, qui est quand même étonnant. Il aurait pu écrire beaucoup plus. Le fruit de cela, juste pour vous dire les versets 30 à 35, c'est le fruit de la, c'est la joie et c'est l'annonce de l'Évangile. Vous voyez cela dans les versets 30 à 35. Qui nous amène logiquement à la question du sabbat. C'est une blague, mais pas très drôle. Donc, ils auraient pu dire aussi, on va répondre à une autre question entre les juifs et les non-juifs, qui est la question de quel jour est-ce qu'on se réunit pour adorer le Seigneur. Et ils ne vont pas le faire pour beaucoup de raisons. Premièrement, nous ne pouvons pas être sûrs, vraiment sûrs, quel jour ils étaient ensemble à Antioche. Nous ne pouvons pas être sûrs. Moi, je crois que c'était le dimanche. On a plusieurs témoignages des disciples qui étaient ensemble le dimanche après la résurrection de Jésus. Mais dans les Écritures, on ne parle pas de quel jour c'était à ce moment-ci. Nous savons quand nous arrivons aux Actes chapitre 20, le verset 7, nous savons que l'Église se réunissait le dimanche ensemble pour rompre le pain. Et vous vous souvenez que c'était le jour où Paul était ensemble avec les chrétiens pour rompre le pain ce jour-là. Et donc, nous ne sommes pas très sûrs de ce qui se passe à ce moment-ci, mais je crois qu'on peut déduire quand même qu'ils étaient ensemble le jour du Seigneur qui est le dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé au sabbat? Alors, juste pour visiter cela, vous savez, le sabbat a été instauré pour le peuple juif, bon, le peuple hébreu, c'était les 10 commandements. La première fois, c'est Exode chapitre 20, et nous nous souvenons que c'était pour faire comme Dieu. Dieu a créé en 6 jours, et puis il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Et donc, dans Exode chapitre 20, quand les 10 commandements sont donnés, c'est pour se souvenir et pour être dans le rythme de Dieu, 6 jours et puis congé, 6 jours puis congé. D'accord? Et cette idée de sabbat, c'est un mot qui veut dire vraiment se reposer ou s'abstenir ou désister à faire des choses. Donc c'est ça ce que nous voyons. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 5, c'est la deuxième fois que les 10 commandements sont donnés, on ne parle pas de la création, on parle que vous étiez esclaves en Égypte pendant 400 ans et Dieu vous a libéré. Et donc ce jour-là, c'est un jour de libération, de responsabilité une fois par semaine. Et donc c'était pour l'esclave, c'était pour la femme, c'était pour les enfants, c'était pour tous. Et donc on a la deuxième fois que ça s'est donné, c'est avec un autre sens, c'est de réfléchir sur la délivrance et puis bien sûr pour réfléchir sur la création de Dieu. À tel point que le mot sabbat a commencé à être utilisé pour toutes les fêtes juives. Okay? Par exemple, la Pâque, on avait le premier et le dernier jour, c'était les jours de sabbat. Même si ça ne tombait pas nécessairement sur un dimanche, c'était un sabbat parce qu'on se retirait du monde et on se reposait. Même chose avec Tabernacle, Pentecôte, toutes ces différentes choses, ils étaient connus comme les sabbats parce que c'était des moments de repos. Sabbat a touché quels autres éléments? C'était quoi? Tous les 7 ans qu'il fallait laisser les champs
se reposer.
Puis il y avait les années de jubilé qui étaient 7 fois 7 plus 1. Et c'était une année où on restaurait les dettes, où on redonnait les terrains aux familles ancestrales du peuple. Donc, on faisait tout cela, on libérait les esclaves, etc. Donc, cela est devenu très important. Puis Jésus arrive, et Jésus, il fait quoi? Il respecte le sabbat. Il est sous la loi. Il respecte le sabbat, et même, vous savez qu'il va dans les synagogues tous les jours de sabbat. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire dans Marc chapitre 2, le verset 27. Marc chapitre 2, le verset 27. Il dit ceci, « Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, ça c'est révolutionnaire, mais ce n'est pas révolutionnaire. Okay. Qu'est-ce qui est révolutionnaire? Que c'est pour... Le sabbat a été créé pour les hommes, et pas les hommes pour le sabbat. Et ça, c'est normal. Les hommes étaient créés avant. La loi nous a dit que c'était pour être dans cette relation de création avec Dieu, donc pour reposer. Et puis, c'était pour se souvenir qu'ils avaient été libérés de l'esclavage. Vous voyez cela? Mais quand Jésus était là, qu'est-ce que c'était le sabbat? Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela. Oh, ça c'est... Oh, ça tu ne peux pas. Oh, non, tu ne peux pas. Non, 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 non. Il n'y avait aucun oui. Il y avait zéro oui. Quand on a... Vous comprenez? C'était vraiment un zéro oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus guérit un aveugle. Quel jour? Le jour de sabbat. Tu as guéri quelqu'un. Tu aurais pu attendre lundi. Dimanche. Okay? Non. Et puis, comment est-ce qu'il a fait? Il a craché dans la boue. Oh, il a craché, il a fait de la boue. Oh, mais ça, c'est... Il a travaillé le jour de sabbat. Vous voyez? C'était une loi d'interdit. Et donc, les hommes sont devenus des esclaves. Le fardeau du sabbat. Oh, c'est le sabbat. Oh, mince alors. Oh, mince alors. Alors, vider les poches, parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter certaines choses dans les poches. Okay, compter les pas, on n'a pas le droit de... Vous voyez ce qui s'est passé? C'est devenu un jour d'interdit. Et Jésus dit, non, le sabbat a été créé pour l'être humain, pour l'homme. Et moi, je suis le maître du sabbat. Alors ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc nous voyons que Jésus, il restaure toute cette idée de Dieu dans le passé. Puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a la différence d'alliance qu'on a vue. Mais nous voyons que Jésus est venu pour instaurer un vrai sabbat. Et ça, vous pouvez chercher dans Hébreux chapitre 3, les versets 12 au chapitre 4. Et là, nous apprenons que le sabbat, c'est notre destinée. Donc, vous avez été créé pour le sabbat. Ah, ben on a dit, non, le sabbat a été créé pour nous. Non, vous avez été créé pour le sabbat, c'est-à-dire votre destinée, c'est un repos éternel en Christ Jésus. Okay? Donc, l'homme reçoit cela en Christ Jésus, que Dieu a préparé un vrai sabbat depuis le début de la création, et donc c'est le destiné de l'être humain. Et Jésus nous rappelle que ce sabbat est fait pour tout homme, c'est le destiné de chacun en Christ Jésus. Et donc, nous entrons dans ce sabbat à travers Jésus. Alors, donc, l'image qu'il va utiliser, c'est très beau, l'image. Il y avait dans l'Ancien Testament quelqu'un qui s'appelait Yeshua. Dans l'Ancien Testament, Yeshua. Qui est Yeshua dans l'Ancien Testament? C'est Josué, ok? C'est Josué. Qui est Yeshua dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. Ok, donc Yeshua, donc Josué, va guider le peuple, traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan. Okay? Et donc, ils entrent dans cet endroit, et ça, c'était le pays de repos après 400 ans d'esclavage et 40 ans dans le désert. Et, c'est et donc, Josué les mène à cela. Est-ce que les Israélites ont eu de la paix et du repos dans le pays de Canaan? Non. Pas vraiment, ok? Pas vraiment. Mais c'était ce qui était créé pour eux. Mais il y a un vrai Yeshua, il y a un vrai Josué, qui est Jésus, qui va nous amener à travers cette rivière à ce sabbat qui commence déjà maintenant en Christ Jésus. Votre repos commence en lui déjà. Et donc, nous apprenons à travers cela que le vrai sabbat, c'est le Christ Jésus qui nous amène à ce vrai repos. Okay. Je vous donnerai mon repos, n'est-ce pas? Je vous donnerai. Et c'est ça notre sabbat. C'est vrai qu'il y a Renaud qui a parlé un peu de cela la semaine passée. Donc la question se passe, est-ce que parce que vous connaissez, c'est nos amis adventistes, si vous avez des amis adventistes, ils disent que Constantin, quand il est devenu chrétien, puisqu'il adorait le Dieu du soleil, alors il a fait changer le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, à dimanche. Parce que c'était le jour. Et puis, tout le monde, il a appelé tout le monde ensemble. Ça s'appelle Nicée. Il a appelé tout le monde ensemble à Nicée. Et puis là, ils ont décidé dimanche. Avant, c'était samedi. Mais maintenant, parce que Constantin a plus de pouvoir que nous, et nous voulons faciliter les choses, et parce que toutes sortes de choses, nous allons choisir dimanche. Bon, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cela. Vous pouvez lire, j'en ai une dizaine de citations de gens qui, depuis l'année 80, sans compter le Nouveau Testament, bien sûr, les Actes chapitre 20, le verset 7, qui parlent du fait que le jour du Seigneur était le dimanche. Okay? Et là, il faut savoir que ça existait longtemps avant Constantin. Donc, 250 ans avant Constantin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc l'Église qui, même par des témoins externes aux Écritures, gardait le dimanche comme le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit la Bible? Vous pouvez juste noter ces passages si cela vous intéresse. Donc, Colossiens 2, les versets 13-17. Colossiens 2, donc 13-17. Galates 4, 9-11. Romains 13, 8-12. Et puis Romains 14, 4-6. Et un peu plus après. Alors, tous ces passages disent très clairement que nous ne sommes pas obligés à suivre le sabbat. Il le dit très clairement. Ils disent, vous suivez des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, etc. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. On n'est pas appelé à faire cela. Okay? Romains 14, les versets 4 à 6, le verset 10 aussi, et puis 12 à 13. Et donc, Et donc, dans ces différents passages, c'est ce que nous voyons, que nous ne sommes pas sous cette loi et que nous sommes donc libres de ces différentes choses. Le dimanche, c'est beau. Dimanche, c'est le jour de résurrection de Jésus. C'est le jour des apparitions de Jésus à ses disciples. Quand il voit les disciples la première fois, vous vous souvenez, c'est le dimanche. Thomas n'est pas là. 8 jours plus tard, donc ça veut dire le dimanche suivant, ils sont ensemble de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est là. Le jour de Pentecôte, probablement est tombé sur un dimanche. C'est une belle chose. Les Actes chapitre 20, le verset 7, on parle de dimanche d'être ensemble. Dans l'Apocalypse chapitre 1, je crois que c'est le verset 7, ils disent « J'étais ravi dans l'esprit le jour du Seigneur ». Sans doute c'est le domingo, hein, c'est domino.